il y a un certain nombre de pratiques qui continuent de marquer le scrutin sur l'achat des voix, sur l'endoctrinement d'un grand nombre d'électeurs. Et on peut penser qu'en 2007, on fera peut-être quelques progrès dans la transparence de ces élections, à mesure où il y a eu quand même beaucoup de sondages qui ont été faits, beaucoup de mobilisation d'associations, et cette pression peut expliquer que ces élections se dérouleront dans des conditions relativement transparentes.
Après 9 ans de pouvoir, dans quel état se trouve l'USFP aujourd'hui ?
Si on écoute les positions officielles des dirigeants, le bilan, selon eux, paraît positif, mettre l'accent sur un grand nombre de réformes qui ont été faites, mais qui ne sont pas à mettre d'ailleurs à l'actif uniquement de l'USFP, parce que la spécificité du gouvernement marocain est qu'il y a, disons, un conglomérat de partis qui composent le gouvernement. Le Premier ministre est un fidèle du roi. Alors, l'USFP pense que ces élections vont améliorer leur score. En réalité, je crois que l'USFP, comme beaucoup de partis de gauche, sont un petit peu pénalisés par l'usure du pouvoir et par des problèmes de renouvellement de cadres et de militants. C'est le propre de tous ces partis, disons, nationalistes ou des partis historiques qui, finalement, une fois au pouvoir, n'ont pas eu toutes les mains libres pour faire les réformes qu'ils prônaient durant leurs longues années d'opposition, que ce soit des réformes politiques, notamment au niveau de la Constitution, de la réforme de la Constitution, et des réformes économiques et sociales aussi, puisque si on regarde un petit peu les résultats de l'économie marocaine, on ne peut pas dire que cela brille par de très grands succès, aussi bien au niveau de la croissance, au niveau de l'emploi, au niveau du chômage. Je ne pense pas que le parti de l'USFP puisse se targuer d'avoir de très grands résultats sur sa gouvernance.
Quelle proposition fait aujourd'hui l'USFP ?
Aller plus en avant par rapport aux réalisations déjà ou par rapport aux réformes qu'ils ont faites. Disons que les enjeux sont quand même maintenant d'assurer d'abord une meilleure croissance, et c'est cela dont souffre le Maroc.
Il y a un parti aussi qui aurait fait une grosse percée, c'est le PJD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ses atouts ? Qu'est-ce qu'il propose ?
C'est un parti qui a su, disons, renouveler un petit peu la fonction de représentation, en ayant à la fois un discours, une organisation, une stratégie. Le parti islamiste a fait finalement son vrai travail de proximité sociale, d'accompagnement auprès de la société, auprès des couches populaires, et ce qui en a fait un vrai parti politique, quoi. Un parti dans lequel les gens peuvent se retrouver. Et en même temps, sur le plan des valeurs, il représente aussi le parti du renouveau, dans la mesure où il affiche un discours anticorruption. Et un parti donc qui prône la justice, je dirais, dont la justice tout court, et le développement, bien évidemment, puisque ce parti est bien conscient des retards de l'économie marocaine. La question qui se pose, c'est quel score fera-t-il pour que le roi puisse à la fois reconnaître que ce parti a fait une percée, qu'il est une composante, disons, du jeu politique, mais qu'il n'a peut-être pas encore sa place au niveau de la formation gouvernementale. C'est ça, je crois, la question. Est-ce qu'il y aura une expérience dans laquelle la formule gouvernementale intégrerait un certain nombre de ministres, ou bien est-ce qu'au contraire, le PJD, malgré sa forte représentation, sera cantonné de nouveau dans son rôle d'opposition, ce qui permettrait au roi de cantonner, je dirais, la véritable opposition islamiste, celle de Al Hassan, celle du cheikh Yassine et de sa fille, qui est la plus dangereuse, en tout cas pour la stabilité du régime.